le projet de canal Seine-Nord-Europe doit relier Auban-Chélobac près de Cambrai et Compiègne. Long de 107 km, il deviendrait le maillon central d'un réseau fluvial à grand gabarit entre l'Île-de-France et l'Europe du Nord. Avec près de 2500 hectares d'emprise agricole, 35 millions de mètres cubes d'eau prélevée, 78 millions de mètres cubes de déblais prévus, pour un coût aujourd'hui réévalué à plus de 10 milliards d'euros, sa construction engage des travaux d'infrastructures pharaoniques. À ce titre, il est parfois qualifié de chantier du siècle. Promu pour désengorger le réseau routier, présenté comme un mode de transport de marchandises plus écologique, mis en avant comme une infrastructure créatrice d'emplois, la construction du canal est contestée pour son impact environnemental négatif et ses bénéfices surévalués. Pour ses opposants, il est un gouffre financier, un anachronisme environnemental et une menace pour les collectifs de travail existants. Il critique cette logique de croissance des flux marchands qui s'effectue au mépris des populations et des écosystèmes. Alors que les premiers chantiers ont commencé, le projet de canal ravive les débats sur la construction d'aménagements qualifiés par certains de grands projets inutiles et imposés. Du 9 au 12 juillet, un village militant éphémère s'est installé à Villers-aux-Tertres, entre Douai et Cambrai, pour protester contre la construction du canal Seine-Nord-Europe. Une mobilisation d'envergure nationale de défense de la terre et du vivant, avec des tables rondes, une balade à vélo, des concerts et une manifestation à pied et sur l'eau. Nous y avons mené une série d'interviews pour comprendre les différents aspects du projet de canal. Aujourd'hui, nous nous attardons sur les aspects économiques avec Milo, ingénieur, membre du collectif Mégacanal Non Merci. Avec lui, nous essayons de comprendre la pertinence du projet, notamment les prévisions quant à sa rentabilité et les critiques formulées par la Cour des comptes sur la dérive des coûts liés à sa construction. Nous commençons avec un point budgétaire pour connaître la répartition du financement du projet.
En 2019, le seul budget qui a été voté, ça a été un budget de 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est passé à 10 milliards d'euros. Mais en tout cas, on en a juste fait budgéter 5. Et sur les 5, il y en a 2 qui sont financés par l'Union européenne, 2 qui sont financés par les collectivités, donc en gros l'État, la région et les départements, et 800 millions qui restent à financer par un emprunt. Mais clairement, c'est un emprunt qui n'avait pas été finalisé. Et aujourd'hui, en fait, on sait, avec le rapport de la Cour des comptes, que le projet est maintenant chiffré à entre 8 et 10 milliards d'euros. Et donc ça, c'est de l'argent qui n'existe pas. Donc il n'y a officiellement plus de budget sur ce projet-là.
Qui est censé mettre la main à la poche, alors ?
Le fait est que ce sont seulement des acteurs publics. Parce qu'il faut rappeler toujours qu'en 2013, Bouygues et Vinci ont dit refuser le partenariat public-privé car l'exploitation du canal n'était pas rentable. Donc de ce fait, depuis ce moment-là, en fait, l'État et les collectivités sont seuls à financer le projet. Et donc en fait, tout le monde se renvoie un peu la balle, si je puis me permettre l'expression. On a la région qui est des Hauts-de-France complètement endettée, qui ne veut plus mettre un euro, qui renvoie la balle à l'État. Mais il faut savoir que l'État, et notamment le ministère de l'économie à Bercy, a souhaité mettre un veto au projet dans le cadre du rapport de la Cour des comptes. Et en fait, on se tourne maintenant vers l'Union européenne, qui est censée être un peu l'assurance-vie du projet, qui a un peu montré comme le grand soutien du projet. Mais dans les faits, en fait, quand on regarde un peu les subventions qui lui sont attribuées par l'Union européenne au canal, on se rend compte que clairement, elle ne finance pas, elle ne répond pas à toutes les demandes de subventions. Donc aujourd'hui, un peu, on se renvoie la balle. On espère que l'Union européenne va mettre la main à la poche. Force est de constater qu'elle ne bouge pas encore et qu'aujourd'hui, nul ne sait comment va y financer ce canal.
Même avec les financements de l'Union européenne, on parle de devoir contracter un emprunt bancaire auprès de banques privées. Là, pour le coup, comment ça se passerait? De quel montant qu'est-ce que ça impliquerait, en fait, à un moment, de payer les intérêts et de rembourser cet emprunt?
Ça, c'est une très bonne question. On sait qu'on a juste budgété 4 milliards d'euros, donc il nous faut encore pour atteindre les 16,3. Alors, le projet officiel, la Cour des comptes dit 16,3 milliards d'euros hors taxes, auxquels il faut ajouter 1 à 3 milliards d'euros de prêts et d'intérêts financiers. Mais tout ça, c'est de l'argent public, donc c'est nous qui allons payer ces intérêts privés pour un canal qui va être utilisé par quelques intérêts privés, surtout qui va être construit par des intérêts privés. Donc en fait, c'est juste, on mutualise les coûts, et les bénéfices, par contre, ils sont privés. Donc tout ça pour expliquer que les emprunts, c'est nous qui allons les rembourser. À un moment, on avait parlé d'une nouvelle taxe nationale à assiette locale, c'est-à-dire qu'on allait faire payer tout le monde, et qu'on allait, tout le monde au sens de tous les Français, Françaises contribuables, pour financer ce canal-là. Aujourd'hui, on n'en sait toujours pas plus. Alors Xavier Bertrand parle d'une taxe sur les autoroutes, c'est toujours un peu flou. On a vu un peu le succès des dernières personnes qui ont voulu taxer les routiers. Bon voilà. Et en même temps, Xavier Bertrand ne veut pas toucher aux routiers. Donc, on se sent un peu perdu en fait, et je pense que personne aujourd'hui ne sait qui va financer à la fois la construction, mais aussi l'exploitation de ce canal. Parce qu'on a l'impression qu'une fois l'infrastructure terminée, comme par magie, elle subviendrait à tous nos besoins, mais non, il va falloir payer pour l'entretenir, payer également pour faire en sorte que le canal soit rentable. Parce qu'aujourd'hui, avec l'histoire, vous l'avez peut-être suivi, hein, des ponts en amont et en aval qui sont trop petits, ben en fait, on aurait un peu une perte économique pour les bateliers qu'il faudrait compenser. En fait, il y a un ensemble de problèmes comme ceci, de conception, qui rendent en fait le canal pas du tout rentable, sauf à subvenir par des subventions publiques aux besoins et à compenser un peu les pertes.
La Cour des comptes, dans son dernier rapport, a pointé une dérive des coûts du projet du canal. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui le budget, il n'est pas maîtrisé. On a beau avoir entamé ce projet, ce budget depuis maintenant plusieurs années, il n'y a que 600 millions d'euros qui ont été consommés, et pourtant, le budget a déjà doublé, parce qu'on est face à plusieurs situations. En effet, il y a un contexte économique austéritaire, une inflation, des problèmes géopolitiques, mais clairement, là n'est pas le problème. Ce que dit la Cour des comptes aussi dans son rapport, c'est que le projet est très mal géré, que la société du canal Seine-Nord Europe n'a pas la gouvernance, il n'a pas les moyens humains ni la gouvernance pour porter à elle seule un projet. Et c'est assez important de le souligner qu'en France, il n'y a que la société du canal Seine-Nord Europe, un aussi gros projet qui est géré par une région. Normalement, un aussi gros projet, c'est géré par l'État. Là, aujourd'hui, en fait, c'est la région qui gère ça et c'est mal géré. Donc, on a des complications financières, on a des complications techniques, on a des marchés de travaux publics qui n'avancent pas. Et clairement, en fait, là, on vient encore de l'apprendre, pas plus tard qu'aujourd'hui, que les chantiers pour creuser et reboucher la rivière de l'Oise au niveau de Longueuil-Anel, donc dans le sud du tracé, qui était prévu pour septembre 2026, ont été reportés à septembre 2027. Et ça, en fait, c'est juste des retards. Parce que qui dit retard ? En fait, les retards financiers, mais aussi des retards juste sur le chantier. Aujourd'hui, il faut rappeler que le projet, il devait être terminé en 2020. Là, on a repoussé à 2032, et la Cour des comptes dit que... Non, le COI, pardon, donc le Conseil d'orientation des infrastructures, dit que ça paraît excessivement ambitieux d'une ouverture à 2032. En off, nous, les bateliers, ils nous disent 2040. Si le canal voit le jour, on est content.
Tu as évoqué la question de rentabilité, et bon, là c'est peut-être une question un peu économique complexe, mais c'est quoi en fait les projections de la société du canal pour rendre ce projet rentable en tant qu'infrastructure de transport ? Comment ça fonctionnerait ?
C'est très simple en fait. Ce qu'ils ont fait les ingénieurs de la société du canal, ils ont simplement basé leurs prévisions sur la simple hypothèse que l'économie française aurait une croissance de 1,7% jusqu'en 2070. Donc déjà assez optimiste, nos ingénieurs. Et de là, en fait, ils découlent une augmentation du trafic de marchandises. En fait, comme la croissance augmente, comme l'économie augmente, bah, de fait, automatiquement, le trafic fait pareil. Alors que dans les faits, on se rend compte que le transport de marchandises stagne depuis 2009, en France notamment, et que clairement, cette croissance, elle n'est pas là aujourd'hui, et on ne sait pas si elle sera là demain, mais force est de constater qu'on pourrait difficilement être optimiste, et ça, ce n'est pas nous, disons, petit collectif de citoyens, non, c'est juste l'autorité environnementale, l'inspection générale des finances, qui rabâche sans cesse que le modèle socio-économique, il est extrêmement ambitieux, et clairement, en fait, c'est un produit en croix, ce que fait la société du canal. Elle dit il y a plus de croissance, donc il y a plus de transport. S'il y a plus de transport, il y a plus de transport routier, il y a plus de transport fluvial, et il y a plus de ferroviaire. Et en fait, tout le monde gagnerait, mais en fait, c'est aussi ce qu'on lit dans les études, c'est que pour que le canal soit rentable, il faut qu'il y ait 8 millions de camions en plus sur le réseau Sanesco, et là seulement, en fait, on pourrait avoir 1 million de camions en moins sur les routes grâce au méga-canal. C'est juste des hypothèses de croissance et à quel point on pourrait maximiser l'utilisation du méga-canal qui, dans les faits, ne veulent rien dire. Et ce que ça veut dire très clairement, c'est que c'est un projet qui se base sur des hypothèses complètement à côté de la plaque, sur des scénarios de croissance qui n'ont rien à voir avec la réalité, et surtout sur un aveuglement sur l'état aujourd'hui du fluvial. Aujourd'hui, on n'a plus de bateliers en France. Qui va conduire les péniches ? Parce que c'est pas parce que le fluvial n'est pas, on va dire, rentable aujourd'hui qu'on n'a pas de trafic fluvial. Le fait est qu'on a 8 fois moins de bateliers aujourd'hui que dans les années 70, qu'aujourd'hui il y a des marchés. Donc quand on dit des marchés, pour que tout le monde comprenne, c'est par exemple qu'une entreprise utilise la voie d'eau pour envoyer ses marchandises. Et bien en fait, aujourd'hui on ne trouve pas assez de bateliers pour répondre à la demande de transport. On a aussi des infrastructures qui sont dans un état si déplorable qu'il y a des marchés qui doivent être annulés parce que les écluses deviennent trop petites au fil des années parce que la poussée des terres fait qu'elles se réduisent. Et en fait, on est dans un monde où on n'a pas besoin de nouvelles infrastructures. On a besoin d'entretenir l'existant, on a besoin de revaloriser le métier de la batellerie, de former de nouveaux bateliers, de revaloriser aussi le ferroviaire parce que le ferroviaire et le fluvial peuvent être complémentaires et que notre chance qu'on a dans le réseau de transport des Hauts-de-France, c'est d'avoir une énorme complémentarité entre un réseau fluvial extrêmement dense et qui est une vraie richesse patrimoniale et aussi pour le transport, et aussi un réseau ferroviaire qui peut venir compléter. Et ça, en fait, c'est ce que dit aussi la Cour des comptes, il faut réhabiliter l'existant.
Pour essayer de synthétiser, bon, on a des projections qui sont faites par la Société du Canal de rentabilité de l'infrastructure, bon, pour rembourser les emprunts et pour financer son fonctionnement. Si j'ai bien compris, elles ne prennent pas en compte des données essentielles de l'économie qui seraient l'inflation, la croissance économique et la stagnation du transport de marchandises. Est-ce que il existe des contre-expertises en fait sur les projections qui ont été faites par la Société du Canal?
Alors, des contre-expertises, non. C'est ça qui est assez désastreux, c'est qu'aujourd'hui, c'est demandé par tous les acteurs d'avoir une vraie contre-expertise, on va dire. En gros, on leur demande dans les textes officiels de réévaluer leur modèle socio-économique et de réajuster, compte tenu des réalités économiques actuelles, leurs hypothèses. Ça, c'est déjà, quand les administrations disent ça, c'est que c'est quand même assez sérieux, parce qu'en fait, la rentabilité du projet, c'est ce qui en fait sa légitimité ou non. Et aujourd'hui, on l'a dit, hein, on a des hypothèses de croissance complètement délirantes et qui sont parfois aux antipodes de la réalité. L'exemple, en fait, on aurait 15% du trafic du Méditerranée qui serait composé par des conteneurs en 2035. Mais si les ponts au nord et au sud sont trop petits, il n'y aura jamais un seul conteneur qui passera. Et ça, en fait, c'est juste des hypothèses de croissance tirées de tableau Excel, mais qui ne prennent pas en compte la réalité. Un autre exemple, en 2035, on attend à avoir 9 millions de tonnes de céréales qui seraient transportées par la voie d'eau, par le Méditerranée. Et en fait, dans les Hauts-de-France, on n'en produit que 10 millions de tonnes de céréales. Et en fait, on estime que magiquement, toutes les céréales des Hauts-de-France iraient sur la voie d'eau du méga-canal, ce qui n'a aucun sens avec la réalité. Enfin, on ne va pas démultiplier la production céréalière pour en mettre un maximum sur la voie d'eau. Et en fait, dès que vous allez creuser les dossiers et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est juste de la fumisterie, cette prévision économique. Et ça, encore une fois, ce n'est pas nous qui le disions, qui sommes en train de le formuler, ça. On le dit simplement sur la base de nombreux rapports. Et en fait, nous, on a beaucoup de gens en off qui nous disent « Si le canal Seine-Nord-Europe réalise un quart de ses prévisions de trafic, on sera déjà heureux. » Parce qu'on estimera qu'on aura déjà atteint tellement elles sont fantasmagoriques. Là, vous regardez les dossiers, on vous dit noir sur blanc qu'entre Compiègne et Cambrai, il va y avoir le même trafic qu'entre Paris et Le Havre. Donc nos éditeurs et éditrices se rendront bien compte qu'on n'est pas sur les mêmes situations économiques et démographiques des deux situations. Et c'est assez délirant, en fait. Vraiment, les hypothèses de croissance et de prévision de trafic sont complètement délirantes. Et ça, c'est souvent le cas quand on construit des méga-canaux. On a le cas du Rhin-Main-Danube, un projet européen également de gros gabarit fluvial, en fait, qui fait 10 fois moins de trafic que ce qui avait été prévu. Et aujourd'hui, on s'attend à voir un peu la même chose avec le méga-canal.
Pourquoi il n'y a pas de contre-expertise? Pourquoi ce ne serait pas possible?
Ah bah, on peut avoir une contre-expertise, il faut la demander, en fait. Il faut la demander, nous, en tant que citoyens, il faut qu'elle soit imposée. Parce qu'en fait, c'est des textes de loi qui ont rendu les contre-expertises obligatoires, mais comme le canal Seine-Europe est un projet vieux, eh bah, il a échappé à cette contre-expertise obligatoire. Et donc, on est dans cette situation ubuesque où on a un projet qui est déclaré d'utilité publique en 2008, dont la déclaration d'utilité publique est renouvelée en 2017, et en fait, il n'est pas soumis à une contre-expertise. Alors, on a différents acteurs, la Cour des comptes, l'autorité environnementale, l'inspection générale des finances, qui ont maintes et maintes fois répété que le canal était destructeur, dangereux, et que surtout, il n'était pas irréversible, qu'on pouvait l'arrêter. Tout est encore jouable, et on peut encore le faire.
Quelles seraient des alternatives possibles, qui seraient, comme c'est mis en avant par la Société du Canal, favorable à la transition écologique, qui peut-être serait plus rentable, ou en tout cas représenterait moins un gouffre financier, et réorganiserait différemment le transport de marchandises? Qu'est-ce qui pourrait être fait?
C'est tout simple, rénover l'existant. Aujourd'hui, la Cour des comptes, en 2024, elle disait qu'on avait besoin, pour maintenir la navigation sur tout le réseau fluvial français, de 1,5 milliard d'euros d'ici 2032. Et ça, c'est très concret. C'est 15% du budget du méga-canal dont on a absolument besoin pour maintenir en eau et capable d'être navigué par des péniches tout le réseau fluvial français. Donc ça, il faut profiter de la chance qu'on a d'avoir le plus grand réseau fluvial français. Il faut l'entretenir, il ne faut pas faire simplement ça. Il faut revaloriser tous les métiers de la batellerie, donc le batelier, l'affréteur, le chargeur aussi, et l'éclusier également, qui est aussi un beau métier qui est en train de disparaître. Et donc faire ça aussi en portant ce projet de territoire autour des voies d'eau qui sont une richesse de notre territoire et de montrer qu'en fait on peut recréer une économie autour de ça, on peut recréer des chantiers navals pour être on va dire autonome sur ces volets là, c'est plein d'emplois pour les territoires et surtout on doit lier ça avec un vrai plan de transition, donc on doit connecter nos voies d'eau avec le réseau ferroviaire, on doit réhabiliter le réseau ferroviaire et tout ça, ça va créer plein d'emplois et ça va aussi changer notre rapport au territoire et entamer une vraie transition. On parle évidemment de transport, mais il n'y aura pas de transport s'il n'y a pas une transition aussi agroalimentaire, parce que ce qu'on transporte c'est souvent de l'agro-industrie. Et donc penser ça ensemble avec l'ensemble des acteuristes. Et aujourd'hui 10 milliards d'euros c'est génial pour faire un vrai projet de territoire et répondre aux urgences, parce qu'aujourd'hui nos urgences c'est pas d'exporter du blé en Chine, c'est de répondre aux sécheresses, aux canicules, de faire en sorte que les gens aient de l'eau dans les années à venir et que nos cultures et qu'on puisse vivre, manger et surtout profiter de la vie ici et maintenant dans les Hauts-de-France.